La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Aymen Garbi, auteur du roman « Le centre d'appel des écrivains disparus » aux éditions Asphalt. Aymen Garbi, vous aviez été notre invité pour Magma, roman qui reparaît aujourd'hui en poche. Vous êtes en ligne avec nous depuis la Tunisie. Le narrateur de votre nouveau roman s'appelle Walid. Au début du roman, on le voit dans sa ville de Nabeul, en Tunisie, dans les années 90. Il est passionné par la culture française et son rêve est d'avoir une carrière artistique à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur le héros de cette histoire ?
Alors, Walid est un personnage, un jeune garçon, en fait, qui, en 1998, et c'est là que commence l'action du roman pour se poursuivre jusqu'à 2011, donc 13 ans de la vie de ce jeune garçon. Walid, donc, 1998, est un jeune garçon qui est fasciné en fait par la culture française, par l'art, la littérature, le cinéma français, et en même temps c'est quelqu'un qui habite la ville de Nabeul, donc dans la péninsule de l'est de la Tunisie. Et c'est quelqu'un qui va en fait considérer que la France est un véritable pôle culturel et artistique, un peu comme le serait par exemple Rome pour un artiste peintre durant la Renaissance. Voilà, il projette toutes ses ambitions artistiques vers la France, plus particulièrement vers Paris. Et donc, durant tout le roman, c'est un roman d'apprentissage, hein, le genre est très clair, donc c'est quelqu'un qui, depuis sa tendre jeunesse, va essayer d'apprendre, va essayer d'atteindre un but intellectuel qui est celui de vivre une vie d'artiste en France. Voilà.
Pourquoi est-il fasciné à ce point par la culture française ?
Parce qu'il y voit une certaine effervescence, une certaine profusion. Il y a de la vie, ça vit beaucoup, hein, que ce soit au niveau de l'industrie culturelle ou de l'art en général. C'est quelque chose qui est assez impressionnant, quoi, pour quelqu'un qui vit dans un pays où, on va dire, les manifestations culturelles ou la production culturelle n'est pas très... il n'y a pas beaucoup de profusion dans cette production culturelle, pour plusieurs raisons qu'on peut découvrir aussi dans le roman. En fait, à travers ce personnage de Walid, je voulais aussi décrire le rapport qu'il peut y avoir entre un pays où la culture et la liberté d'expression sont réprimées. Hein, en 98, c'était le régime Ben Ali, et puis on ne pouvait pas facilement s'exprimer, puis il y avait des circuits dans lesquels il fallait se poser pour pouvoir dire des choses, pour pouvoir écrire certaines choses. Quand même, la culture était assez réprimée, assez codée à cette époque-là. Tandis que, quand on regarde vers la France, à cette époque-là, eh bien, il y a quelque chose d'assez fascinant, dans la liberté de s'exprimer, la liberté de ton, et puis toute l'importance qu'on accorde en France et en Occident en général à l'art. Voilà.
Pourquoi appelle-t-il la France le pôle ? C'est parce qu'elle l'attire comme un aimant ?
Oui, il y a quelque chose qui ressemble à l'attirance de l'aimant. Voilà, à un certain moment, le personnage le dit lui-même, qu'il est attiré comme par un aimant. Donc oui, effectivement, je voulais décrire l'aspect viscéral de cette attirance qui peut même être mise en perspective avec ce qui se passe aujourd'hui. L'immigration clandestine, par exemple, aujourd'hui, est toujours considérée ou sur un ton misérabiliste, que ce soit dans l'art ou dans les documentaires ou dans les reportages. Jamais on ne parle de la dimension idéale, les idées, hein, les idées qu'il y a derrière tout ça. L'idée qui nous hante, qui nous obsède pour tout lâcher et aller vers un pays donné. Voilà. Donc, il y a la dimension du rêve, voilà, un souci individuel d'épanouissement que je voulais mettre en valeur à travers cette plongée dans la conscience d'un personnage qui se sent étranger chez soi, voilà, en gros.
Ayman Gharbi, le premier choc esthétique de votre héros vient d'un film français, Dieu seul me voit, dont l'action se déroule à Versailles, loin de la Tunisie. Le deuxième choc esthétique sera la découverte de Samuel Beckett. Alors, pourquoi Beckett ?
Alors, il prend conscience dès le début du roman, dès la première conversation du roman, il prend conscience de l'absurdité du monde dans lequel il vit, de l'absurdité de la communication. Il prend conscience qu'il y a quelque chose de défaillant dans les relations humaines. Et du coup, quand il va regarder d'abord Dieu seul me voit, un film de Denis Podalydès, un film absolument génial, et puis quand il lit la pièce de Samuel Beckett, Fin de partie, eh bien, il va ressentir des chocs esthétiques qui vont le bouleverser radicalement, qui vont bouleverser sa vision du monde, qui vont bouleverser sa vision de l'écriture. Fin de partie va lui donner le désir d'écrire du théâtre.
Ayman Gharbi, on voit que le héros est un peu différent de ses amis. Il fréquente assidûment le cinéma, il va dans les vidéoclubs. Le soir de la finale de la Coupe du Monde en 1998, au lieu de regarder le match, il parcourt les rayons d'une bibliothèque et il emprunte des classiques de la littérature. Ce personnage vous ressemble-t-il ?
Oui, il y a forcément un côté autobiographique dans ce roman, mais ce n'est pas exclusivement et totalement autobiographique, sinon je n'aurais pas écrit un roman. C'est un roman, donc il y a une grande part d'imagination. Il y a des choses que vous citez qui me ressemblent, que j'ai vécues, mais il y a d'autres choses dans le roman que je n'ai absolument pas vécues, qui sont inventées. Par exemple, le centre d'appel des écrivains disparus qui donne son titre au roman, je l'ai inventé. Hein, c'est une aventure totalement inventée, totalement fictive, qui n'est pas autobiographique. Donc, pour répondre à votre question, le personnage me ressemble et ne me ressemble pas. Voilà. La polyphonie romanesque fait que c'est un personnage complètement fictif, dans lequel il y a certaines choses de ma propre personnalité, de ma propre psychologie qui le hante. Voilà.
Ayman Gharbi, après Nabeul, le jeune Walid part étudier à Tunis et son rêve est toujours de partir pour la France. On perçoit son désenchantement, les autres étudiants le déçoivent, il est dérouté par un enseignant qui règne en maître sur la faculté et qui est doté d'un ego surdimensionné. Est-ce que vous pouvez compléter le portrait de cet étrange professeur ?
Alors, ce professeur est, on va dire, d'un point de vue romanesque ou dramatique, c'est l'ennemi du protagoniste, c'est l'antagoniste, quoi. C'est un personnage qui va le suivre pendant tout son parcours, donc durant ces 13 années qu'on va lire dans le roman, qui va donc revenir régulièrement pour s'opposer à lui, pour lui dire non, ben non. Tu es médiocre, tu n'es rien, voilà, et moi je suis tout, je suis le grand mandarin qui sait tout sur le théâtre, etc. Et voilà, c'est un archétype, hein, de certains mandarins imbus d'eux-mêmes, qui ne veulent pas laisser la place aux générations suivantes. Il y a quelque chose de paternaliste, il y a quelque chose de psychanalytique aussi, dans le sens du père qu'il faut tuer. Mais à la fin, voilà, je ne vais pas spoiler, de dire des. Révéler des choses, divulgâcher, comme on dit, ou spoiler, mais voilà, à la fin, on va voir que le personnage du professeur n'est pas aussi puissant qu'il prétend l'être.
J'en arrive au titre de votre livre, Le Centre d'appel des écrivains disparus, où votre héros va exercer ses talents. Votre couverture représente Victor Hugo avec un casque et un micro. C'est l'idée romanesque par excellence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce centre d'appel?
Une fois que Walid rentre de Montpellier en Tunisie, très déçu, très désabusé par son expérience, il va candidater dans ce centre d'appel des écrivains disparus, qui ne se trouve pas à Nabeul mais à Tunis. Donc il va aller vivre à Tunis. Le centre d'appel des écrivains disparus, c'est quoi son concept? C'est des acteurs qui sont engagés pour incarner des grands écrivains français disparus, morts, donc qui ne sont plus vivants. Et c'est une organisation culturelle française qui, on va dire, dirige ce centre d'appel. Le but de cette entreprise est de faire connaître les grands penseurs, les grands écrivains français à la population tunisienne, qui pourra appeler sur un numéro vert ce centre d'appel et converser avec Victor Hugo, avec Samuel Beckett. Samuel Beckett est irlandais, mais puisque c'est un francophone, on a intégré son personnage dans le centre, dans ce centre d'appel, avec Balzac. Et ces trois auteurs vont être représentés par des gens qui sont au téléphone, des acteurs, dans le décor d'une hotline, donc dans le décor d'un vrai centre d'appel, et qui répondent aux questions des Tunisiens. À un certain moment, les questions vont focaliser sur la liberté d'expression, sur comment affronter une dictature, sur des questions comme ça. Hein. Donc, nous sommes au début des années 2000, à la mi-temps des années 2000, et le régime Ben Ali vraiment excelle dans l'oppression et dans le régime policier. Donc, voilà. Donc, les questions vont devenir au fur et à mesure très très politique. Et le personnage de Walid, qui incarne Samuel Beckett, justement parce qu'il adore Samuel Beckett, eh bien, va être confronté à cette réalité. Hein. Donc c'est ça, toute la tension réside dans cette opposition entre quelqu'un qui incarne un auteur complètement désengagé, complètement apolitique, voilà. Beckett est quelqu'un qui refuse absolument de parler de société, de politique, de tout ça. Et la situation réelle dans laquelle il s'est engagé, c'est-à-dire un pays où il y a beaucoup de corruption, où la liberté d'expression est réprimée, où l'extrémisme religieux est en train d'avancer. Voilà, c'est l'idée.
Comment avez-vous eu l'idée de ce centre d'appel?
D'abord, moi, j'ai un goût pour la parodie. J'aime bien tout ce qui est parodique, tout ce qui est voilà, incarné de façon humoristique des personnages, voilà, entre guillemets, sérieux, quoi. Deuxième chose, c'est que durant l'épidémie du Covid, les théâtres en France avaient fermé, et puis les troupes ne pouvaient plus gagner leur vie parce que voilà, le travail était quasiment absent dans les théâtres. Et il y avait une troupe qui avait proposé un numéro que les gens pourraient appeler, et quand les gens appelaient ce numéro, eh bien, on leur lisait des poèmes. Un acteur qui lisait un poème. Et voilà, cette idée m'a vraiment obsédé, elle est restée dans ma tête, et c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler l'idée du centre d'appel des écrivains disparus. Voilà, c'est vraiment une idée comme ça fulgurante qui est venue de la réalité et que j'ai développée après. Voilà.
Je ne veux pas anticiper sur la fin du roman, Aymen Garbi, mais votre héros retourne à Nabeul, la ville de son adolescence, et le vidéoclub est devenu une boutique de vêtements, le cinéma est une ruine. Vous avez le sentiment qu'il est plus difficile pour un jeune d'aujourd'hui d'avoir accès à la culture, malgré l'ouverture sur le monde que représente Internet?
C'est le but un peu du roman, c'est de décrire ce désert culturel hein, dont je parlais tout à l'heure et qui a incité notre personnage principal à partir vers le foisonnement culturel français. Il y a eu à cette époque les graines d'une désertification culturelle hein, que je voulais vraiment décrire parce qu'elle est très très importante pour la situation actuelle, même pour les immigrés qui fuient clandestinement de la Tunisie vers l'Europe. En tout cas, les pouvoirs publics ont très très peu travaillé sur la culture, ce qui fait que le tableau apocalyptique que vous avez lu à la fin, donc cinéma en ruine, vidéoclub qui ferme, sans aucune autre solution donnée pour trouver une autre forme, hein, de louer des films, de partager les films, de projeter des films, d'encourager la lecture, des choses comme ça, eh bien voilà. Je voulais décrire ce tableau de désertification culturelle qui est aujourd'hui vraiment très très prégnant en Tunisie.
Merci Aymen Garbi. Je rappelle le titre de votre roman, Le centre d'appel des écrivains disparus, et c'est publié aux éditions Asphalt.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.